Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en valeur les belles initiatives et les talents français. Demain, c'est le grand jour, nous serons enfin déconfinés, la France s'apprête à redémarrer, à reprendre une vie qui ne sera pas tout à fait comme avant. Je vous propose de faire un tour d'horizon des lieux qui vont rouvrir en masse, comme les petits musées, les librairies, mais nous irons également du côté des lieux culturels les plus visités, qui pour l'instant sont toujours fermés, mais qui préparent activement leur réouverture. Dans cette émission, nous donnerons aussi la parole à ces entreprises qui ne sont pas du secteur du tourisme en tant que tel, mais qui vivent en grande partie grâce aux touristes. Pour préparer le déconfinement, de nombreuses entreprises font appel à des spécialistes du nettoyage qui pulvérisent des désinfectants dans des pièces entières pour assurer les salariés et les parents d'élèves. Mais comment être sûr qu'il n'y a plus de traces de coronavirus? Une entreprise marseillaise qui travaille notamment avec les pompiers de Marseille a mis au point des kits de diagnostic rapide pour vérifier l'absence de Covid-19. Donc voilà encore un beau programme bien chargé. Juste avant d'aller du côté de Marseille découvrir cette start-up marseillaise qui analyse la contamination des surfaces et de l'air, je vous propose d'aller faire un petit tour rapide du côté du Gers, pour retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui trépigne d'impatience de pouvoir repartir sur les routes de France à la rencontre de nouveaux talents français.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
J-1 avant le déconfinement, oui, on est plus bien loin.
On trépigne tous.
Alors, toujours confiné dans le Gers, qu'allons-nous découvrir
dans
avec
Gers,
vous aujourd'hui?
Oui, oui. Alors, tout à l'heure, je vous retrouve près de La Romieux, un petit village du Gers, qui est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va faire la connaissance avec un meunier pas comme les autres. Il s'appelle Oscar Coupé. Je dis meunier, mais en fait, il est bien plus que ça. Avec son entreprise Trésor Gascon d'Occitanie, il produit de la farine bio, mais aussi des légumes secs pour la distribution en magasin bio.
Et on si peut on rappeler qu'il y a eu des ruptures de farine pendant ce confinement, très consommées.
Et justement, et lui tire son épingle du jeu, il produit énormément, il va nous raconter ça. Et si on a le temps, eh bien on ira faire le tour de ses installations. Et vous l'entendrez, on a un pied dans la tradition avec des immenses meules en granit, ces moulins traditionnels. Et un autre dans la haute technologie avec des treilleuses optiques de dernière génération.
Merci beaucoup Thibaut. Donc on se retrouve tout à l'heure sur le terrain.
Exactement.
À tout à l'heure Thibaut.
À tout à l'heure Nathalie.
Direction Marseille, c'est ça la France.
Direction Marseille maintenant à la découverte d'une entreprise qui traque les micro-organismes dans l'environnement. Et nous sommes en ligne avec Younes Lazrak, fondateur de C4 Diagnostics. Bonjour Younes.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes le fondateur de C4 Diagnostics, très sollicité en ce moment avec le déconfinement qui se prépare. Tous les lieux publics vont rouvrir demain, donc ces lieux ont grand besoin d'un grand coup de balai et de désinfectant après 2 mois de fermeture. Mais comment être sûr qu'il n'y a plus de traces de coronavirus? C'est là où vous intervenez. Expliquez-nous la spécialité de votre entreprise et ce kit de diagnostic rapide que vous avez mis en place.
Avec plaisir. Bon, tout d'abord, une petite précision, je suis cofondateur. J'ai 2 autres fondateurs avec moi qui ont lancé cette aventure C4 Diagnostics. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire est-ce que les décontaminations sont efficaces ou pas, nous avons effectivement mis en place une activité liée au coronavirus, qui n'était pas notre métier de base, puisque nous travaillons sur le développement de kits de diagnostic d'autres maladies infectieuses.
Mais vous aviez déjà permis de diagnostiquer les bactéries de légionellose, donc on n'est pas très loin. Vous aviez ce type de solution que vous avez décliné finalement.
Tout à fait. Donc effectivement, la petite histoire, c'est que les marins-pompiers de Marseille nous ont contactés au début de la crise sanitaire en demandant de leur monter une plateforme de test justement pour vérifier l'absence de coronavirus dans les lieux qu'ils considéraient comme stratégiques, tels que leur caserne, leur centre de PC de crise, les véhicules sanitaires qui servent à évacuer les patients. Et effectivement, on a adapté finalement des technologies qui étaient existantes, qui étaient utilisées dans le médical, pour pouvoir le faire dans l'environnement. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce que nous faisons pour le compte des marins-pompiers, mais également pour le compte de tous ceux qui nous le demandent, c'est effectuer des prélèvements soit de l'air ambiant, soit des prélèvements de surface, sur les surfaces qui sont les plus touchées, comme des poignées de porte, des claviers d'ordinateur, des choses comme ça.
Mais comment ça marche, hein? Vous avez un gros écouvillon, enfin, comment vous faites pour prélever, de quelle façon on prélève justement ces échantillons?
C'est tout simple, c'est-à-dire que c'est un petit geste technique, mais on passe un écouvillon préalablement humidifié sur la surface qu'on va vouloir tester. Donc on va écouvillonner 25 cm² à 100 cm² en fonction de quelle sensibilité on veut.
Ça prend un temps fou finalement. La surface est grande, on laisse rien au hasard.
On ne laisse rien au hasard. Après, effectivement, il y a une idée de sélectionner l'endroit dans lequel on va tester. C'est-à-dire quand vous arrivez dans une grande pièce, vous allez vous focaliser sur là où la probabilité que le virus soit présent est la plus importante. Donc effectivement, on va sélectionner les lieux qui sont les plus touchés. Si on parle d'une entreprise, les boutons de la machine à café, ça va être un des premiers points qu'on va tester.
Alors justement, qu'avez-vous pu constater? Où est-ce que l'on retrouve le plus de virus?
Alors, il y a les endroits où on s'attendait à retrouver, donc effectivement des poignées de porte, des choses comme ça. Il y a des endroits un peu plus atypiques où on a pu en retrouver. On en a retrouvé sur des lavabos, sur des chasses d'eau. Et là où on retrouve effectivement assez souvent le virus post-décontamination, c'est sur les claviers d'ordinateur par exemple. Puisque là où on va passer de la Javel partout, on va hésiter à passer des produits qui peuvent potentiellement rendre un ordinateur plus fonctionnel sur des claviers. Donc effectivement, il y a des points où il y a un point de vigilance important à avoir.
Il faut qu'on le note tout ça, qu'on fasse la petite liste pour ne rien oublier. Pour notamment ceux qui le font eux-mêmes chez eux. Alors, juste une petite question concrètement sur le terrain. Déjà, quels sont les lieux que vous avez déjà eu l'occasion de désinfecter, ou en tout cas de vérifier au niveau de...
Alors, nous avons commencé par travailler avec les marins-pompiers. Donc, au départ, c'était leurs propres locaux. Puis, progressivement, ils ont étendu à un grand nombre de locaux qui, typiquement, très récemment, et je pense qu'il y a eu un reportage télé là-dessus, ils ont testé des écoles avant leur réouverture. Ils ont pris quelques écoles pour vérifier que, après les 50 et quelques jours de fermeture, il n'y avait plus trace détectable de coronavirus. Et la bonne nouvelle est que non. Ils ont aussi pu, maintenant on peut communiquer dessus, on a pu tester des échantillons du Charles de Gaulle, le porte-avions. Oui. On a y compris testé des choses qui étaient un peu plus lointaines, qui sortaient de notre sphère marseillaise, puisque les marins-pompiers ont été appelés à tester le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense.
Alors là, vous dites que les marins-pompiers de Marseille ont été appelés, ça veut dire que vous les avez formés aux techniques de prélèvement? C'est pas votre entreprise qui le fait, c'est eux qui le font?
Tout à fait. Là, effectivement, pour les marins-pompiers, la manière dont ça fonctionne, c'est que nous avons formé les marins-pompiers à ces prélèvements qui s'effectuent, qui nous rapatrient au niveau de notre laboratoire central. Et c'est nous qui menons les tests. Le tout, en fait, étant un travail en réseau, puisque nous avons aussi un partenaire qui s'appelle Aliodix, qui travaille avec nous sur le sujet. Donc, effectivement, ce ne sont pas des tests in situ, c'est des tests qui sont rapatriés au niveau de notre laboratoire. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme ça avec les marins-pompiers. Et pour des partenaires privés, soit nous travaillons en direct, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui faisons le prélèvement, soit nous avons des partenaires préleveurs où nous formons nos propres clients au prélèvement.
Donc là, il y a du boulot, Younes Lazrak, pendant les prochains jours, entre la réouverture des lieux publics, des écoles, des transports, des magasins, des bureaux.
Effectivement. Et on a très largement augmenté notre capacité de test. Quand nous avons commencé au tout début avec les marins-pompiers, on faisait une vingtaine de tests par jour, puis on est passé à une centaine. Aujourd'hui, on est capable de mener plusieurs centaines de tests par jour.
Non, c'est impressionnant. Et alors, il faut dire aussi que vous avez été extrêmement réactif. En moins de 10 jours, vous étiez opérationnel.
C'était effectivement la vraie gageure. En fait, quand les marins-pompiers nous ont contactés, ils nous ont demandé pour hier une plateforme. En temps normal, on aurait mis 2-3 mois à la monter. Ouais. Et notamment en cette période où c'était une crise en termes d'approvisionnement et où les choses les plus évidentes n'étaient pas disponibles, ça a été une vraie gageure. Et là, je tiens à féliciter l'équipe qui a vraiment fait des miracles et qui a travaillé 7 sur 7 pour réussir à monter ça. Mais effectivement, en 10 jours, on a réussi... on va dire en partant de zéro, à tout mettre en place et ensuite à commencer à faire ce qu'on appelle nous de la validation de procédés, c'est-à-dire à travailler sur notre procédé de prélèvement, de transport et de conservation et de test pour l'améliorer au maximum et être sûr de la fiabilité de nos résultats.
Merci beaucoup Younes Lazrak pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de ces 4 diagnostics. Merci et bon courage à vous pour les prochains jours.
Bon courage à vous aussi et à vos auditeurs également.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Restez avec nous. On se retrouve dans une poignée de secondes et nous serons avec ces entrepreneurs qui vivent de la visite d'entreprise et qui sont bien évidemment impactés et inquiets pour la suite. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Demain, nous serons déconfinés, mais pas dans tous les secteurs d'activité. Les cafés, les hôtels, les restaurants restent fermés pour l'instant, ce qui inquiète les entreprises qui vivent de la visite d'entreprise. On en parle tout de suite avec Cécile Pierre, déléguée générale de Entreprises et Découvertes.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Cécile Pierre.
Bonjour.
Alors, vous êtes déléguée générale, comme je le disais à l'instant, de Entreprises et Découvertes. Entreprises et Découvertes, l'association Entreprises et Découvertes, est le premier portail dédié à la visite d'entreprise. Donc, vous travaillez à développer ce tourisme industriel. On compte combien d'entreprises en France qui font de la visite d'entreprise ?
Alors, on compte environ 2000 entreprises qui accueillent chaque année 15 millions de visiteurs. Et en effet, Entreprises et Découvertes travaillent avec ce réseau d'entreprises pour assurer sa promotion et son développement. Alors, on ne le fait pas seul. On travaille avec les ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et des grandes entreprises ou petites entreprises comme EDF qui nous aident beaucoup, qui aident à développer la filière et qui présentent près de 100 sites sur toute la France.
Alors, justement, la majorité de ces entreprises, ce sont des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises.
Alors, on a tous les cas de figure. On a 80% de petites et moyennes entreprises. Donc, c'est principalement un tissu de petites et moyennes entreprises d'excellence et qui sont distribuées sur tout le territoire. C'est toute la force de la filière. Donc, on en a partout. Et c'est en plus une spécialité française parce que nulle part ailleurs, on trouve une offre aussi riche et aussi diversifiée et répartie sur tout le territoire de ce qu'on appelle soit la visite d'entreprise, soit le tourisme de savoir-faire.
Et donc, dans quel état ?
Pardon, dites-moi. Juste pour préciser, l'objectif, ce ne sont pas des musées d'entreprise, pour la plupart, à 99%. C'est vraiment un voyage au cœur des savoir-faire et un voyage au cœur de la production, qu'il s'agisse de grandes usines ou de petits ateliers de production. Et la plupart de ces visites sont guidées par des salariés. C'est tout ce qui fait leur force. Oui.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment en immersion dans l'entreprise. Ça n'est pas effectivement, pour la majorité d'entre eux, un musée à côté que l'on va visiter. Donc, dans quel état d'esprit sont ces entrepreneurs que j'imagine vous avez en ligne pour certains d'entre eux ?
Bien sûr. Alors, on les a régulièrement en ligne, tous ou par mail. Donc, tous sont très durement touchés par la crise. Alors, un peu à double titre, ils subissent un peu une double peine, celle d'être tout simplement des unités et des entreprises qui subissent la crise comme toutes les autres entreprises dans l'ensemble des secteurs d'activité, compte tenu de la baisse de l'activité, et celle d'être aussi des activités, des lieux de tourisme qui, pareil, ont été fermés et qui sont donc durablement touchés, là, sans doute maintenant et sans doute après dans une reprise qui va être complexe et qui, en plus, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas déclarés en tant qu'entreprise du tourisme, mais entreprise simple. Oui. Donc, il n'est pas certain qu'on arrive à faire en sorte qu'elles bénéficient de toutes les mesures, notamment d'exonération de charges dont a bénéficié le secteur du tourisme. Donc, on y travaille, mais c'est un peu compliqué puisque c'est un secteur passionnant, mais un peu hybride entre l'entreprise et le tourisme.
Alors, justement, Cécile Pierre, nous sommes en ligne avec Ramuncho Pochelu, que vous connaissez bien de l'Atelier du Piment. Bonjour, Ramuncho.
Oui, bonjour Nathalie, bonjour
alors,
à tous.
On peut dire que vous cultivez un symbole du Pays Basque, le piment d'Espelette.
On cultive un symbole, on cultive l'ingrédient clé de la gastronomie basque, on cultive la seule épice française. J'en aurai des qualificatifs pour toute la journée, si vous voulez.
Donc vous êtes situé à Espelette, l'Atelier du Piment, vous accueillez régulièrement et notamment l'été les touristes qui viennent justement participer à toutes ces étapes de production du piment d'Espelette. J'imagine que ça a été très violent pour vous et votre activité, la fermeture brutale des hôtels, des restaurants.
La violence était par la soudaineté, c'est du jour au lendemain tout a fermé, tout a été annulé. Tous nos groupes, puisqu'on travaille beaucoup avec les tour opérateurs, les autocaristes, tout s'est arrêté d'un coup. Tous les séminaires d'entreprise sont arrêtés d'un coup. Les hôtels, tout a fermé. Économiquement, c'est une catastrophe. Une catastrophe.
En moyenne, combien de visiteurs vous recevez chaque année et sur quelle période ?
Alors, notre saison, elle commence à partir du mois de mars jusqu'à à peu près novembre. Elle serait partie avec du tourisme de troisième âge à peu près de mars à juin. Ça reprend de septembre à novembre. avec un tourisme aussi d'affaires, séminaires. Biarritz, on est un site de congrès également. Et l'été, juillet, août, ce sont plus les familles.
Donc aujourd'hui, dites-moi.
Aujourd'hui, ça représente à peu près 100 000 visiteurs.
100 000 visiteurs. Et en termes de chiffre d'affaires, que représente cette part de ces visiteurs dans votre chiffre d'affaires ?
À plus de 60%.
Ah oui, donc c'est une perte qui va être considérable. Donc vous espérez peut-être récupérer des touristes à partir de juillet, août, si on peut bien évidemment aller au-delà des 100 km ?
Alors voilà, on est à l'écoute des annonces du gouvernement. Édouard Philippe a reconduit les 100 km jusqu'au 2 juin. J'espère qu'il va le lever, parce que si demain on a ce confinement de nouveau jusqu'au mois de septembre, c'est notre année qui est morte, simplement.
Ouais.
Et notre année, ça veut dire une vingtaine d'emplois, ça veut dire beaucoup de choses, quoi.
Vos confrères, vous échangez avec eux, j'imagine, parce que Espelette, c'est vraiment un village très touristique. Comment vivent-ils cette situation ? C'est dans le même état d'esprit que vous ?
Alors, l'ensemble alors nous, on est des producteurs. Nos clients, qui sont aussi des commerçants sur Espelette, sont catastrophés. Il y en a beaucoup qui vont pas se relever. Il y en a beaucoup qui vont pas se relever parce que la saison estivale, c'est 80% de chiffres pour beaucoup d'entreprises ici. Et c'est une catastrophe économique. On va être sinistré. Le Pays Basque, c'est l'activité principale, c'est le tourisme. Vous savez, les années précédentes, on avait toujours peur du terrorisme, des choses comme ça, mais jamais on n'aurait pu penser à une crise sanitaire de cette ampleur-là, quoi. Jamais.
Oui, puis aussi une crise inédite, donc on navigue un peu à vue, donc c'est compliqué de pouvoir anticiper.
À vue, c'est vraiment au jour le jour. Nos partenaires, que ce soit des agences réceptives sur Paris ou même pas à l'étranger, certains ne rouvriront qu'en fin d'année.
Voilà. Cécile Pierre, pardon, allez-y Ramoncho, je laisse terminer.
Non, allez-y, je t'en prie.
Cécile Pierre, que vous connaissez très bien d'Entreprises et Découvertes, comment aider ces entrepreneurs à passer cette période difficile ? Est-ce qu'il faut faire appel justement à cette consommation citoyenne, inciter les Français à visiter de plus en plus les coulisses de ces entreprises, notamment cet été, les locaux d'ailleurs, cet été, qui seront dans ce rayon de 100 km ?
Oui, tout à fait. Alors, nous les aidons, sur le site entreprises-et-découvertes.fr. On a mis en place sur l'espace professionnel et une rubrique actualité toutes les mesures que nous leur conseillons, évidemment qui nous viennent des ministères, des autorités compétentes et pas mal d'exemples de bonnes pratiques. Parce que l'enjeu pour nous, comme le disait Ramoncho, compte tenu de la très grande difficulté dans laquelle sont plongées ces entreprises, c'est à la fois d'ouvrir dans des meilleures conditions pour rassurer les visiteurs, donc qu'en termes de sécurité et sanitaire, on soit complètement irréprochable, donc on les aide à mettre en place l'ensemble des bons gestes, que ce soit l'éloignement, le masque, etc. Donc l'ensemble des éléments. Et ensuite, on les encourage, nous, effectivement, à ouvrir le plus vite possible, dans le respect des meilleures normes, que ce soit l'espace de production qu'on visite, la partie boutique ou la partie qu'on appelle espace de marque ou petit musée qui ressemble complètement à ce que les autorités ont indiqué comme étant des petits musées. Donc, sur le papier, tous peuvent ouvrir à partir de demain et plutôt courant mai, début juin. Donc la plupart vont ouvrir en respectant l'ensemble de ces normes. Et nous, on va mettre à disposition non seulement des entreprises l'ensemble des bonnes pratiques pour les aider à ouvrir, mais on va mettre en place un agenda sur notre site internet pour aider le public à voir qui ouvre à quel moment parmi nos 2000 entreprises.
Oui, alors vous les connaissez bien, ces parcours de visite, Cécile Pierre. Il y en a peut-être qui sont plus compliqués que d'autres à adapter à toutes ces mesures de sécurité.
Bien sûr. Ça va dépendre effectivement entre la très grande usine et le tout petit atelier de production, entre ceux qui reçoivent 10 000 visiteurs et ceux qui reçoivent 500 000 visiteurs. On a beaucoup de cas de figure différents. Donc nous, on va indiquer les règles essentielles et ça va permettre notamment aussi de recevoir des petits groupes. Alors, il y a déjà des entreprises qui reçoivent des tout petits groupes. Je pense à Rémi Martin, qui reçoit des groupes jamais plus de 10 personnes.
Rémi Martin, le cognac, hein, c'est ça?
Voilà, les cognacs Rémi Martin qui reçoit des petits groupes sur une visite de très grande qualité. Mais on a aussi, effectivement, des visites qui se font en plus grand groupe. On a des visites qui se font à l'extérieur. Père de Sel, par exemple, qui va ouvrir dès le 15 mai à côté de Guérande, fait des visites en extérieur sur les marais salants. Donc, il va réduire ses groupes. On sera sur des groupes de 10 personnes. Donc, tout est mis en place, y compris des masques qui vont être, comment dire, sur lesquels va être gravé des papillons pour signifier le confinement, pas dans la chrysalide, et puis ensuite la sortie du printemps. Mais tous vont respecter les normes d'hygiène, mais vont essayer d'ouvrir le plus vite possible parce que on va le voir après. Il y a des enjeux très forts dans l'ouverture de ces entreprises post-crise.
Alors, Ramuncho Pochelou, vous, en général, ce sont des groupes de combien de visiteurs que vous recevez quand vous avez la possibilité, effectivement, d'ouvrir les locaux?
Alors, il peut y avoir des groupes de 10, 15, jusqu'à 50, voire 100. C'est très varié. On a ici, sur le site, on a beaucoup, beaucoup de place. Hein. On est sur un site qui fait à peu près 3 hectares. Donc, ouais. Aujourd'hui, ils seront...
J'imagine qu'il y a une partie en intérieur et en extérieur visite?
Dans la visite, la partie dégustation se faisait jusqu'à présent à l'intérieur. Aujourd'hui, on va être capable de la faire à l'extérieur. Comme on est des producteurs, nous avons des serres, on a plus de 1000 m² de serres. Ça va se passer dans ces endroits-là, donc on aura des distances de sécurité qui seront respectées. On a créé du mobilier pour se désinfecter les mains sans toucher les choses avec des pieds. Voilà, on a réfléchi à plein de choses, des parcours. Vraiment, les gens sont en sécurité. Et j'espère que des gens
qui seront nombreux.
Voilà, qui seront nombreux. Mais ils pourront venir en toute sécurité. C'est, voilà. Après, ça, c'est le projet. Mais la situation actuelle aujourd'hui nous a amené à avoir une réflexion différente. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, grâce à Visite d'entreprise, à tout le travail que fait Cécile, Marie, on a créé des liens avec d'autres sites, que ce soit Terre de Sel, la maison Fragonard, la maison Fabre, Olibo sur Béziers, tout ça. Et aujourd'hui, on échange sur nos différentes pratiques, sur nos stratégies, sur comment on va voir les choses, qui c'est qui est en bon tuyau. Et souvent, les problèmes qu'on se pose, les situations qu'on rencontre, ben, d'autres de nos confrères les ont déjà résolus. Et
oui.
D'avancer. Et ça, c'est intéressant.
Et là, vous avez cité en plus des secteurs complètement différents, de la parfumerie, du savon. Donc, effectivement, il y a une grande famille hein, du tourisme d'entreprise qui est très solidaire. Merci beaucoup, Ramuncho Pochelou, pour votre témoignage. Et on espère que le Piment d'Espelette va pouvoir très rapidement accueillir de nouveau beaucoup de public. Merci pour votre témoignage et à très bientôt.
Au revoir. Merci à vous.
Au revoir Cécile Pierre, vous restez avec nous. Hein. On se retrouve dans une poignée de secondes, cette fois-ci avec un producteur d'huile d'olive qui vit du tourisme. A tout de suite.
Sud Radio, C'est ça la France.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français en compagnie de Cécile Pierre de Entreprises et Découvertes, l'association spécialisée dans la visite d'entreprise. Et nous donnons justement la parole aux entrepreneurs qui vivent de la visite d'entreprise et qui s'inquiètent naturellement pour la suite.
Sud Radio, C'est ça la France.
Direction maintenant le Luberon et la Bastide du Laval, spécialisée dans la production d'huile d'olive. Une très belle entreprise qui a l'appellation AOC Provence, une huile qui accumule les médailles d'or, 12 médailles d'or depuis 2009 au concours général agricole à Paris. Bonjour Roland Coupa.
Bonjour Nathalie et bonjour Cécile.
Vous connaissez effectivement Cécile Pierre, Entreprise et Découverte.
Oui.
Vous êtes passé du tourisme à l'oléiculture il y a 20 ans. Vous avez planté avec votre femme vos premiers oliviers dans ce coin du Luberon. Et aujourd'hui, vous fabriquez une huile de qualité bio que l'on retrouve sur les plus belles tables. Est-ce que c'est bien résumé?
C'est absolument ça. Et le problème, c'est que comme on avait eu juste avant ça une carrière intégralement destinée au tourisme, eh bien, on avait conçu notre moulin pour qu'il soit visité par un maximum de personnes pour faire partager notre passion. Et on est exactement dans le même cas que mon prédécesseur producteur de piment d'Espelette, Ramuncho, c'est-à-dire que toute notre la production d'huile d'olive dure 2 mois par an, novembre, décembre, et le reste du temps, tout est organisé autour du tourisme.
Racontez-nous un petit peu à quoi ressemble votre parcours oléotouristique chez la Bastide du Laval.
Alors, parcours oléotouristique, vous voulez dire celui des visiteurs ou le mien personnellement, le nôtre?
Celui des visiteurs, celui que vous proposez aux touristes qui viennent vous voir.
D'accord, alors nous ce qu'on propose aux touristes c'est avant tout la visite de l'oliveraie, ensuite une visite commentée en expliquant comment on fonctionne en bio, quelles sont les différentes variétés, qu'est-ce que c'est qu'une AOP Provence, qu'est-ce que ça veut dire vierge extra, qu'est-ce que ça veut dire première pression à froid, ensuite on visite le moulin et la partie technique, comment effectivement on fabrique de l'huile d'olive, et tout passe, ce qui est très important dans notre activité, par la dégustation à la fin du tour. Et c'est ça qui nous a posé pas mal de problèmes de réorganisation pour pouvoir faire déguster de façon tout à fait sécuritaire nos éventuels visiteurs qui vont à nouveau nous rendre visite à partir du 11 mai.
Alors, en tant que producteur d'huile d'olive et agriculteur, vous avez l'habitude de surmonter les défis routiniers du quotidien, la sécheresse, les éventuels parasites, le gel, enfin, vous maîtrisez tout ça, et finalement là vous êtes face à un autre défi, une crise sanitaire, un autre parasite.
Exactement, alors ces crises habituelles, on les maîtrise plus ou moins bien selon leur nature. Celle-ci par contre, on ne la maîtrisait pas du tout, elle nous a échappé totalement, comme pour l'ensemble de la population globalement, et il a fallu mettre en place d'autres techniques. Alors nous, ce qui nous a permis de survivre et de préserver nos emplois, c'est qu'on s'est tout de suite tourné vers la communication sur Internet et vers les ventes sur Internet. Et on a assisté à un élan de solidarité de l'ensemble de notre clientèle, une consommation citoyenne. Les gens ont joué le jeu et vraiment, on a pratiquement quintuplé nos commandes sur Internet, ce qui nous a montré d'ailleurs qu'on avait encore une belle marge de progression à ce niveau. Mais nos clients, amis, tous les gens qui nous suivent, ont vraiment joué le jeu, passé le mot autour d'eux, et ça nous a permis non pas de faire des scores spectaculaires, mais en tous les cas de préserver les emplois, de notre jeune équipe, puisque on est en fait tout doucement en train de passer la main à notre fils aîné, qui avait mis en place toute une équipe de jeunes gens, de jeunes filles, jeunes femmes très...
Tiens donc, des jeunes filles.
Oui. Très efficace, et bon, on a eu beaucoup d'angoisse de perdre cette équipe, et puis voilà, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir le coup? Je crois qu'on a passé le gros de la difficulté, et que, voilà, sans vouloir être...
Et grâce justement à ces nouveaux circuits de distribution qui ont explosé pendant ce confinement, et notamment la vente directe via les réseaux sociaux.
On a mis toutes nos forces vives sur les réseaux sociaux. C'est mon épouse Karine qui fait tout ce travail de communication sur les réseaux sociaux. J'avais une certaine efficacité, je crois. Et en tous les cas, on a vu arriver massivement des commandes tous les jours qu'on n'avait pas dans le passé, quoi, par le biais de l'Internet.
Cécile Pierre, justement, est-ce qu'on a le sentiment que pendant cette crise, les Français ont privilégié les circuits courts, le commerce de proximité? Finalement, est-ce que la visite d'entreprise ne peut pas tirer justement son épingle du jeu de tout ça?
Tout à fait. Et c'est exactement ce sur quoi on va travailler. Alors évidemment, la crise est terrible pour le secteur, mais néanmoins, on veut rester optimiste. Et nous, notre enjeu là, c'est de sortir dans les meilleures conditions, mais assez rapidement, et d'encourager les entreprises à ouvrir dès qu'elles le pourront, parce qu'on pense que la filière visite d'entreprise a vraiment constitue une filière d'avenir, notamment après la crise. Alors, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on va être invité, on l'aura tous compris, à voyager en France, voire à voyager de manière en très grande proximité autour de nous, dans notre région, voire dans notre département. Et donc, il va falloir que les Français redécouvrent leur pays, non pas que à travers les sites classiques que sont les églises, les restaurants, les musées, etc., mais qu'ils aillent découvrir une autre France, un autre tourisme.
Le patrimoine vivant.
Voilà, exactement. Et la visite d'entreprise fait exactement partie de ce patrimoine culturel vivant qu'on connaît encore assez peu. Et donc, aller rendre visite, aller voir les visites des grandes usines ou les petits ateliers va constituer une nouvelle offre. Et on pense à la Bastide du Laval qu'on connaît très bien, qui est une très belle visite. Et le principe, ça va être ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à côté des grands sites, là, on a la Sainte-Victoire qu'on connaît tous, bien sûr, mais on a une autre offre, et cette autre offre, c'est évidemment l'huile d'olive de la Bastide du Laval. Et on peut faire le tour de France comme ça. On a Saint-James, les Pulles Saint-James, qui sont des pulles superbes, une très belle visite que vous connaissez, Nathalie,
En Normandie,
à côté du Mont, en Normandie, à côté de Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel, on a aussi la Monnaie de Paris, par exemple. En face du Louvre, qu'on connaît tous parfaitement, on peut visiter la Monnaie de Paris et donc découvrir ces ateliers de production qui sont des ateliers de pratiquement la plus vieille usine de France ou même du monde, dirait l'équipe en place. Et on voit comment sont fabriquées les pièces de collection aujourd'hui. Donc un atelier vivant en plein cœur de Paris et en face du Louvre.
Et donc repenser la visite d'entreprise davantage centrée sur l'humain.
Voilà, davantage centrée sur l'humain et surtout inviter le public à découvrir cette France qu'ils connaissent assez peu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose extrêmement importante, et on l'a souvent répété pendant cette crise, ça va être de soutenir l'économie française et notamment de soutenir le très local, de soutenir les entreprises à côté de chez nous qu'on connaît mal. Et donc tout l'enjeu, au-delà de l'injonction un peu morale, et ça va être de découvrir ces entreprises, d'accepter d'en payer le prix, parce qu'on sait que le Made in France, c'est évidemment très intéressant, mais souvent on le paye un peu plus cher. Donc pour qu'on accepte de soutenir cette économie, il faut d'une part qu'on comprenne exactement à quoi elle ressemble, quels sont ses atouts, quels sont ses avantages, et d'autre part qu'elle nous fasse rêver. Et c'est tout l'enjeu de la visite d'entreprise, à la fois de comprendre comment sont fabriqués nos produits, pourquoi ils sont durables, pourquoi l'entreprise s'engage et pourquoi ils nous intéressent, mais c'est aussi de les écouter nous raconter des histoires singulières. Et c'est un peu ce qu'indiquait Rémy Martin, les cognacs Rémy Martin, qui nous disait on est un certain nombre de maisons à fabriquer du cognac, mais on a tous des histoires singulières à raconter et on veut enchanter les clients. Et dans cet enchantement, il y a vraiment l'idée de raconter des histoires singulières ou aussi des histoires de ce qui s'est joué pendant la crise. Par exemple, 1083, le fabricant de jeans français qui s'est mis à fabriquer des masques, ou la licoristerie Giffard, qui fabrique donc des liqueurs et qui s'est mis à fabriquer des gels antibactériens. Donc toutes ces histoires, les histoires anciennes, mais aussi les histoires récentes, les histoires d'entreprise, on va devoir les raconter et c'est tout ça qui va nous permettre de nous repositionner sur le Made in France et de vouloir consommer français près de chez nous.
Alors Roland, bizarrement, cette crise de distanciation sociale va peut-être nous rapprocher. Vous êtes d'accord avec cette analyse de Cécile Pierre ?
Alors complètement, c'est d'autant plus important pour nous, c'est que les huiles d'olive de France sont des huiles d'olive de très grande qualité. Elles sont pas encore énormément connues du public français parce que ce sont des huiles de petite production. La production française est loin d'être la plus importante du pourtour méditerranéen. L'Espagne à elle seule fait presque 50%, 47% je crois. Et donc les Français ont été obligés par nature de se tourner vers la production d'huiles d'olive de très grande qualité. Et en fait, on le sait pas encore assez en France, mais quand on parle d'huile d'olive de grande qualité, on pense très souvent à l'Italie, etc. On se situe bien à ce niveau-là, voire même parfois au-dessus. On le sait, nous, parce qu'on est allé un petit peu défier les Italiens sur leur territoire dans certains concours et on en est revenu avec des médailles d'or. Mais on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Je suis d'ailleurs très content d'avoir l'opportunité d'en parler avec vous à la radio. Il faut vraiment comprendre que les huiles d'olive françaises sont des huiles d'olive de très bon niveau. On les trouve moins partout dans le monde parce qu'on en produit moins que les Espagnols ou les Italiens.
Et donc, grâce à ce confinement, on a pu les redécouvrir. Il faut justement continuer à les déguster post-confinement. Voilà. Merci beaucoup, Roland Coupa, pour votre témoignage, la Bastide du Laval. Merci, Cécile Pierre, d'Entreprises et Découvertes. Bon courage à vous et merci pour votre éclairage à tous les deux.
Merci beaucoup et bon courage.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.
Édouard Philippe l'a annoncé mardi dernier dans son plan de déconfinement. Les bibliothèques, les médiathèques et les petits musées pourront rouvrir à partir de demain. À Bayonne, les Basques se préparent déjà à cette réouverture depuis plusieurs semaines.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Yves Hulgade, adjoint maire de Bayonne en charge de la culture et président du musée basque et d'histoire de Bayonne. Bonjour Yves Hulgade.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien et vous ?
Ma foi, très bien à Bayonne, avec un petit peu de pluie aujourd'hui, alors qu'il faisait très beau hier.
Bon, vous avez rarement de la pluie, quoique, il y a quand même pas mal de pluie dans votre région. Mais vous avez des beaux étés en général.
Oui, on n'a pas à se perdre, et surtout une très belle arrière-saison sur laquelle on compte beaucoup, vous pouvez l'imaginer dans le contexte que vous venez de définir.
Ah oui, alors depuis le début du confinement, tous vos salariés sont en télétravail, et pourtant vous avez des expositions en préparation.
Oui, c'est justement parce que cette exposition, en particulier temporaire, et d'été qui va être mise en place à partir du 15 juillet nous occupe beaucoup l'esprit, que vous pouvez imaginer que le télétravail l'a emporté durant les semaines qui ont précédé. En définitive, on s'est réactivé très vite. On a passé 2-3 jours à s'interroger sur la façon dont on allait s'organiser, en quelque sorte, pendant cette période délicate. Et puis, très vite, l'équipe a fait preuve d'initiative, a voulu reprendre la main, en quelque sorte, de la réouverture de ce musée qui aura lieu le 1er juillet au public. Et pour cela, bien sûr, il fallait qu'on se mette très, très vite au boulot dans le domaine de la prise de contact et du rassemblement des pièces principales qui vont constituer la très belle exposition de la mi-juillet sur les poteries, en l'occurrence des poteries d'art, qui ont leur réputation nationale aujourd'hui.
Oui. Dites-moi, ces poteries d'art, vous disiez, Yvulgad? Ah, on a un petit souci de connexion, on vous entend un peu moins bien. Alors j'espère que vous êtes toujours là.
Vous m'entendez?
Oui, là je vous entends à nouveau, parfait.
Ah bon, d'accord.
Vous disiez, vous donniez une précision sur les poteries d'art de Cibourg qui sont votre prochaine exposition.
Oui, c'est exact. Et pour cela, il a fallu prendre contact avec beaucoup de collectionneurs, y compris nationaux, hein, puisque ces poteries ont leur réputation parisienne, par exemple. Et donc, il a fallu que l'on rassemble toutes ces pièces qui, durant 75 ans de production, se sont réparties un peu partout sur le territoire national, voire ailleurs. Et je dirais que même les artisans initiaux de cette poterie ont été les premiers surpris, à travers leurs descendants en particulier, de découvrir des pièces qu'ils avaient un peu oubliées. Je crois que ce sera vraiment une
belle exposition. Et ce télétravail donc n'a pas été trop handicapant pour préparer la prochaine exposition. Alors vous le disiez, vous n'ouvrez qu'à partir de juillet au public. Ça veut dire qu'à partir de demain, les salariés vont pouvoir réinvestir le musée.
Oui, exactement.
En revanche, pour le public, on attend encore un peu.
Oui, tout à fait. On toilette, comme vous pouvez l'imaginer, les parties qui vont être réservées à l'accueil du public. On a fait en sorte aussi que les pièces soient maintenues avec déjà un tour de garde à l'intérieur du musée, de façon à ce que toutes les pièces soient préservées de la pire des choses en définitive dans un musée, c'est-à-dire la fermeture, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est dans ces moments-là que la poussière peut s'accumuler, que les pièces sont en quelque sorte oubliées. Et donc il a fallu que pendant quelques jours déjà, on s'active autour de ces pièces pour que maintenant on travaille plus particulièrement à partir de demain et de mardi sur en particulier la déambulation de tous les visiteurs, les jauges à respecter, les distanciations à respecter et la formation du
personnel. Ah oui, tout le protocole sanitaire. Ouais.
Et la formation du personnel pour qu'on soit à la hauteur de ce grand réceptif de la mi-juillet, puisque là on compte beaucoup bien sûr sur cette exposition pour faire repartir complètement la machine.
Donc il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de bien accueillir le public en toute sécurité. Pour les impatients, je les renvoie sur la page Facebook du musée parce que vous avez trouvé différentes manières de garder le lien avec le public.
Oui, il y a des visites virtuelles en permanence qui sont d'ailleurs réactualisées. On trouve des thématiques, un tout petit peu comme si en définitive on était en contact direct avec notre public, sauf que bien sûr on ne le voit pas. Alors il y a beaucoup de remontées, de réactions que l'on écoute, auxquelles on répond d'ailleurs, pratiquement en temps réel. Enfin, on a voulu garder ce contact-là et pour cela, on a mis en place des expositions temporaires, virtuelles certes, mais qui permettent aussi d'aller au-devant de pièces qui sont un petit peu oubliées dans le musée, que l'on a là mises en lumière parce qu'on avait le temps de le faire et on a évoqué comme ça des niches qui pouvaient être un petit peu oubliées sur la grande culture basque, mais aussi sur le patrimoine bayonnais, puisque ce sont les deux pans de ce beau musée des bords de Nive.
Eh bien, nous, on invite les auditeurs de Sud Radio à venir investir le plus rapidement possible ce musée basque, Histoire de Bayonne, à partir de début juillet, avec cette belle exposition sur l'art de Cibourg de 1919 à 1995. Merci beaucoup, Yvulgad, pour votre témoignage.
De rien, avec grand plaisir. Et puis, on aborde cette période avec la dynamique nécessaire. Je sens que vous avez la pêche. Sachez qu'à Bayonne, on l'a aussi, même si la situation est un peu particulière, bien sûr, par exemple, avec l'annulation de nos fêtes de Bayonne.
Oui, ça c'est vrai que c'est bien triste, mais on l'entend dans votre voix, vous gardez le moral et c'est le plus important. Merci beaucoup pour votre témoignage et bonne fin de journée.
Merci et merci de votre intérêt surtout. À bientôt.
Au revoir. Et comment ça se passe pour les grands musées? Comment font-ils pour pas se faire passer le temps? On en parle dans une poignée de secondes avec la directrice de collection du MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, situé à Marseille. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est à la France, l'émission du savoir-faire français. Et nous continuons notre tour d'horizon de ces lieux culturels qui préparent leur réouverture. Et à Marseille, justement, comment ça se passe du côté du MUSEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Eh bien, on en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et on en parle avec Émilie Girard, directrice scientifique et des collections du MUSEM. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors le MUSEM est toujours fermé hein, pour l'instant. Il fait partie de ces grands musées qui n'ont pas encore l'autorisation de rouvrir. Le MUSEM, ça représente combien de visiteurs chaque année?
C'est un nombre très important de visiteurs puisqu'on est à peu près 450 000 visiteurs pour les expositions et plus d'un million d'eux sur le site de manière globale. Donc effectivement, on est un musée qui brasse une fréquentation assez importante, ce qui nous place dans la catégorie des grands musées, j'utilise les guillemets parce que cette différenciation entre petits et grands musées, elle est compliquée à définir vraiment.
Oui, c'est, je crois, ceux qui nécessitent pas de grands déplacements, c'est ça qu'on peut rouvrir, d'où ces petits musées.
C'est effectivement la définition, l'argument qui a été utilisé par les autorités pour différencier les deux catégories.
Alors, vous avez une idée géniale au MUSEM. Ça, je pense que ça va interpeller nos auditeurs. Vous avez lancé une collecte sur Internet pour récupérer des objets ou des documents qui symbolisent le mieux cette période d'isolement. Expliquez-nous un peu cette démarche du musée.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on a lancé il y a une quinzaine de jours. Le MUSEM est un musée qui s'intéresse aux contemporains et à la vie quotidienne. Et donc, il était compliqué de ne pas s'intéresser à cette période de confinement qui bouleverse les vies de tout un chacun. Et donc, nous avons proposé de mettre en place une collecte participative qui consiste à demander aux gens quel est l'objet de leur quotidien, de leur vie de confiné, qui pour eux est symbolique de cette période, et est-ce qu'ils seraient prêts à en faire un don au musée. Donc on a lancé ça sur notre site, sur les réseaux sociaux, et on a à ce jour plus de 250 propositions qui nous sont arrivées, très variées.
Tout le monde peut y participer ou c'est uniquement les Provençaux?
Ah non, tout le monde, c'est vraiment une collecte sur l'ensemble de notre domaine de compétences, c'est-à-dire France bien évidemment, mais aussi bassin méditerranéen, Europe au sens large également. Donc on a, il est vrai, beaucoup plus de propositions du territoire français, mais on a quelques propositions internationales.
Alors, la fin de cette collecte, c'est le 31 mai. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent participer justement à cette future exposition, l'adresse mail, c'est confinement@musem.org. Donc, il faut envoyer un objet et un mot. C'est ça qui explique l'objet,
alors,
qui contextualise l'objet.
D'abord, je précise un tout petit peu les choses. Il ne s'agit pas d'un projet d'exposition à ce stade, simplement d'un projet de collecte. Un musée régulièrement enrichit ses collections sur des thématiques spécifiques, sans forcément.
Oui, et vous êtes un musée des sociétés, vous l'avez rappelé.
Voilà, ouais, sans avoir forcément en ligne de mire une exposition. Donc à ce stade, nous, on est sur l'enrichissement de la collection, sur la thématique du confinement. Et effectivement, ce qu'on demande, c'est d'envoyer une ou plusieurs photographies de l'objet qui est proposé et de l'accompagner d'un texte qui explique les raisons de l'importance de l'objet aux yeux de la personne qui propose de la donner. Et ces textes, ils sont souvent très intéressants et peut-être des fois plus que l'objet en lui-même, parce qu'ils permettent d'exprimer non seulement l'objet lui-même, mais aussi les conditions de vie dans lesquelles la personne évolue, ce qu'il ressent, son implication, sa capacité à réagir à une actualité sombre. Donc c'est vraiment ce matériel-là qui est aussi intéressant pour nous, pas seulement l'objet, mais aussi ce qui est dit, le récit de vie qui est dit à côté de l'objet.
Alors justement, parmi tous ces objets que vous avez récoltés, est-ce qu'il y en a qui vous ont récoltés pour l'instant à travers des photos, hein, je pense, hein.
Ouais,
vous n'avez pas encore les vrais objets. Est-ce qu'il y en a qui vous ont vraiment étonné?
Oui, il y a eu, moi je m'attendais pas à une variété aussi importante. On s'attendait, je pense comme chacun peut l'imaginer, à des masques, à des attestations de sortie. On a quelques équipements de protection, mais ça reste extrêmement minoritaire. Et ce qui est le plus représentatif, c'est les objets qui témoignent d'une réactivité, d'une capacité à réinventer son quotidien. Alors des choses parfois drôles, comme une tyrolienne qui permet de relier deux immeubles parisiens qui se font face pour se passer le sel, un journal ou autre. Je pense également à quelqu'un qui a bricolé une tondeuse à cheveux en y branchant le flexible de son aspirateur pour éviter d'éparpiller les petits cheveux dans la salle de bain. Donc ces objets qui sont un peu comme ça bricolés. Puis il y a des objets, je trouve, très forts sur la symbolique. On a un infirmier libéral qui nous propose ses chaussures avec lesquelles il part travailler tous les matins. Ah, chaussures qu'il laisse devant sa porte pour ne pas aller rentrer à l'intérieur, et qu'il remet donc le matin, qu'il les pose le soir, il les remet le matin. Et donc c'est des objets très forts qui parlent de ces personnes qui continuent à travailler pendant la période de confinement, qui marquent la frontière entre intérieur et extérieur, et qui sont aussi très chargés symboliquement des émotions qu'on peut ressentir dans cette période si particulière où voilà, on prend un risque en sortant et en allant soigner les autres.
Et vous voyez, si je devais participer à cette collecte, je crois que j'enverrais une photo de mon batteur électrique. Je n'ai jamais fait autant de gâteaux que pendant cette période de confinement.
Alors, je m'attendais effectivement beaucoup aussi à des accessoires de cuisine. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. On a aussi des tapis de yoga. Ça, plusieurs.
Ah oui,
ça reste, le sport et le yoga à la maison en particulier, je pense, ont été des étapes fortes. Et puis, il y a aussi des propositions d'enfants qui sont assez amusantes, qui soit se fabriquent des doudous à qui ils font vivre tout ce qu'ils vivent eux. Donc, une sorte de catharsis qui passe comme ça par le jouet, où ils photographient le doudou dans les différentes situations de la vie confinée. Il y en a d'autres qui se fabriquent des costumes de super-héros faits pour combattre le virus. Il y a une petite fille qui a fait son musée miniature en carton, où elle est venue accrocher des petits tableaux sur des petites cimaises, donc pour recréer comme ça en miniature et chez soi ce qu'on peut pas atteindre. Donc il y a vraiment, je trouve, une grande richesse et une grande variété de choses.
Une grande créativité.
À la fois une grande créativité et à la fois des choses plus sombre aussi, des gens qui parlent de leur solitude et du coup de la peinture ou des photos qu'ils prennent seuls pour passer le temps. J'ai une proposition à la fois drôle mais je trouve aussi très très forte de quelqu'un qui m'a simplement envoyé une photo de ses pantoufles avec aucun texte si ce n'est un titre qui s'appelle Détresse appartementale. Voilà, je trouve que c'est des choses qui résument bien
qui résument bien
l'état d'esprit dans lequel se trouvent les gens en ce moment.
Alors, à côté de ça, il y a toutes ces visites virtuelles indisponibles, bien évidemment. On a une petite idée de la date de réouverture du MUCEM ou pour l'instant, ça reste encore un peu flou?
Pas à ce stade. On n'ouvrira sans doute pas avant le 2 juin, ça c'est quasiment certain. On est du coup en train de préparer tout pour que, dès que nos autorités de tutelle nous donneront le feu vert, nous puissions rouvrir dans des conditions de sûreté et de sécurité maximales pour le public et pour les personnels du musée. Donc on travaille à tout ça. Ça nous laisse le temps de pouvoir aussi réinvestir les lieux côté personnel, puisque, comme tout le monde, le personnel du musée a été en grande partie forcé à travailler à distance. Donc là, on est sur cette phase de retour progressif à l'activité et de préparation, de mise en place de l'ensemble des équipements de sécurité, de manière à pouvoir accueillir le public le mieux possible et dans les meilleures conditions, on l'espère, le plus rapidement possible.
Eh bien, on a hâte que le MUCEM puisse rouvrir à nouveau. Merci beaucoup, Émilie Girard, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la directrice scientifique et des collections du MUCEM. Et j'en profite pour redonner l'adresse, confinement@mucem.org. Vous avez jusqu'au 31 mai pour envoyer par mail, effectivement, une photo, un texte qui accompagne cette photo qui symbolise pour vous cette période de confinement. Merci, Émilie Girard.
Merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir. Alors, on va continuer notre tour d'horizon de ces lieux culturels qui se préparent à rouvrir. Il y a un autre lieu très visité par les Français, c'est bien évidemment la grotte de Lascaux, cette grotte ornée de peintures préhistoriques qui est située en Dordogne, dans la commune de Montignac. On en parle tout de suite avec son directeur.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour André Barbe.
Bonjour Nathalie.
Alors André Barbe, vous êtes le directeur général de cette grotte de Lascaux. Lascaux, c'est une histoire magique, c'est une marque qui est vraiment imprimée dans la mémoire collective. Là encore, pour nous donner une idée du nombre de visiteurs chaque année, de l'affluence à ce musée, ces grottes de Lascaux, combien de visiteurs vous recevez en général chaque année?
Écoutez, sur la marque Lascaux, on reçoit un peu plus de 550 000 visiteurs, et ça inclut le Centre international de l'art pariétal, le premier facsimilé au monde, Lascaux 2, et le parc du Tot. Donc c'est une marque qui fonctionne très très bien jusqu'à présent.
Alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter cette grotte, il faut le dire, la grotte d'origine donc, a été fermée au public en 1963, mais alors la copie, elle a autant de succès que l'original.
Oui, alors aujourd'hui d'ailleurs, vous avez raison de le dire, on peut même dire les copies, et c'est grâce aux copies qu'on peut
les
découvrir.
Copies, vous avez raison.
Oui, on peut découvrir ce patrimoine. Sinon, ça serait réservé aux scientifiques et ça serait un peu dommage, quoi. Comme toutes les découvertes qu'on est en train de faire dans d'autres grottes en France aujourd'hui, de mettre ça à la vue des visiteurs, ça permet de leur faire découvrir cet art préhistorique, cet art des cavernes, si précieux aujourd'hui, et qui nous permet d'ailleurs de traverser cette période avec la même considération de solidarité. Et ça, c'est très émouvant de pouvoir redécouvrir ces notions-là aujourd'hui.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui plaît le plus justement dans ces grottes de Lascaux ? Quels sont les retours des visiteurs en général ? C'est d'avoir le sentiment de... parce que vous avez réussi à reproduire les conditions de température, d'environnement sonore, avec ce pigment naturel qui vous entoure. Qu'est-ce qui plaît le plus en général ?
On a la chance d'avoir un atelier en Dordogne qui effectivement travaille sur tous les facsimilés de France et d'Europe d'ailleurs, et qui nous permet d'avoir une précision au millimètre près. Et donc on reproduit, et ça déjà le visiteur est très sensible à cela, c'est-à-dire qu'il se sent presque dans la grotte originale. Et ça, d'avoir reproduit ça à l'identique, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je dirais que ce qui émeut les visiteurs, c'est la richesse des couleurs. Ouais. Tous ces animaux vivants qui courent sur les parois, qu'on peut animer d'ailleurs dans certaines visites guidées aujourd'hui. Et de découvrir cette richesse, c'est peut-être le début de l'art. C'est sûrement pour certains préhistoriens la chapelle Sixtine de la préhistoire. Donc quand j'ai dit ça, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup.
En général, on vient en famille, j'imagine. C'est une visite qui se vit à plusieurs.
Oui, vous savez, on partage. C'est ça les vacances. Et d'ailleurs, cette distanciation sociale actuellement, elle est difficile à vivre parce qu'on ne peut pas être en famille, se toucher, partager des émotions, des expériences. C'est un peu tout ce qu'on propose à Lascaux et c'est finalement demain ce qu'on proposera encore plus, quoi. Parce que c'est une visite aujourd'hui qui était accompagnée par des appareils numériques. Et je crois qu'on va revenir à un peu plus d'humain, ce qui qualifiera encore plus la visite, me semble-t-il. Et d'avoir cette approche au plus près des visiteurs pour leur raconter une belle histoire, c'est en tout cas l'expérience qu'on essaye de préparer pour la prochaine réouverture qui aura lieu dans quelques semaines.
Dans quelques semaines. Alors André Barbe, restez avec nous. On va se quitter une poignée de secondes, le temps du point info, et vous nous expliquez comment vous allez faire pour remplir toutes les mesures de sécurité pour qu'elles soient compatibles avec la visite des lieux et cette envie de recentrer la visite sur l'humain. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et on continue notre voyage au sein de ces lieux culturels les plus visités de France et qui préparent leur réouverture. Et nous sommes justement à la grotte de Lascaux. On a l'impression d'y être en écoutant André Barbe, son directeur général, qui est en ligne avec nous. Bon, rebonjour André Barbe. Alors justement, vous nous disiez à l'instant, vous êtes en train de préparer justement la réouverture. Comment vous allez faire pour remplir justement toutes ces mesures de sécurité pour qu'elles soient réalisables avec la visite des lieux, avec cette grotte ?
Le propre de Cro-Magnon, c'est de savoir s'adapter. Donc on va s'adapter. Et on va présenter, peut-être dans des conditions un peu VIP, la grotte, comme on l'a jamais montré finalement, puisqu'on divisera par deux, voire trois, le nombre de visiteurs que nous accueillerons cet été. Et ça permettra à des groupes constitués de 10, 15, 20 personnes maximum de faire une visite accompagnée d'un médiateur durant 1h45 à 2h. Ça sera une expérience assez unique, avec les gestes de distanciation bien sûr imposés. Mais je crois que quand on s'occupe d'un site comme la marque Lascaux et comme tous ces sites-là et tous les sites culturels d'ailleurs que nous gérons, on doit prévenir les visiteurs dès le départ, avant leur visite et leur départ en Dordogne. On doit pouvoir acheter son billet en ligne. On doit pouvoir réserver son jour de visite. C'est même horodaté, son heure de visite. Et puis ensuite, on peut avoir un paiement en ligne. Donc vous voyez qu'on enlève déjà une grosse part de responsabilité sur cette visite. Et une fois qu'on a rempli ces conditions, on demandera à nos visiteurs de venir avec un masque pour passer 2 heures d'une belle visite avec nous.
Ah voilà, donc ça rassure de se dire que finalement, on trouve toujours, vous l'avez dit, hein, comme Cro-Magnon, on s'adapte, on trouve toujours des solutions. Et on en parlait tout à l'heure avec justement nos intervenants, cette ouais. volonté de recentrer cette visite sur l'humain. Et c'est vrai qu'on va pouvoir de nouveau écouter le guide et non plus être sur nos tablettes à visiter la grotte seule. En fait, bon, les deux sont complémentaires, mais peut-être que le guide va reprendre effectivement cette dimension. Il va retrouver sa place centrale dans la visite.
Vous avez tout à fait raison de l'exprimer comme ça. Mais c'est, finalement, c'est ce qu'on vient chercher, quoi. On est juste des passeurs d'histoire, nous. Et donc, si un visiteur fait une belle rencontre avec un médiateur qui lui donne toute sa passion et qui lui transmet toute sa passion, je crois qu'on aura créé des émotions, on aura fabriqué des rêves qui seront partagés plus tard. C'est vraiment ça dont il faut s'inspirer aujourd'hui, quoi. Revenir à l'humain, c'est revenir à ce que faisait Cro-Magnon quand il se regroupait autour du feu, parce que c'était des périodes climatiques compliquées. Mais ils n'ont réussi à survivre que parce qu'ils étaient en groupe, quoi. Et cette solidarité du groupe, on la retrouve aujourd'hui contre la maladie et contre cette crise qui nous touche aujourd'hui, quoi.
Et alors, pour finir, André Barbe, justement, pour nos auditeurs qui nous écoutent, la date de réouverture, vous disiez, vous espérez rouvrir à partir de quand ?
Bah écoutez, normalement, fin mai, on aura des informations du gouvernement. Et pour des sites, pour les mettre en sécurité, je pense que fin juin, début juillet, nos sites devraient rouvrir. Je veux dire, toutes choses étant égales par ailleurs, si la pandémie continue comme ça à disparaître, ouais. Et si les conditions d'ouverture que nous proposerons, bien sûr, aux préfets et aux maires de la commune correspondent à ce qu'ils attendent pour que ça soit... Parce que l'ASCO est quand même, bien sûr, regardé comme d'autres sites importants et d'autres grands acteurs comme ça en Nouvelle-Aquitaine ou en France. Et donc, il faut qu'on soit vraiment très opérant et très rassurant vis-à-vis de la clientèle.
Merci pour votre témoignage, André Barbe. Et on attend là aussi activement la réouverture des grottes de Lascaux. Merci et bonne fin de journée.
Merci Nathalie, bonne journée à vous.
Au revoir. Allez, il est temps de retrouver Thibaut. Thibaut qui est près du village de La Romieux dans le Gers. Il est en compagnie du fondateur d'une belle entreprise qui a su tirer son épingle du jeu. C'est bien ça Thibaut ?
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et oui Nathalie, je suis en compagnie d'Oscar Coupé, paysan meunier. Il s'est lancé dans une très belle aventure, Trésor Gascon d'Occitanie. C'est une entreprise de minoterie spécialisée dans la farine bio. C'est bien ça ?
Farine bio, légumes secs, triage, voilà.
Alors comment va l'activité en cette période difficile ?
Ben nous, même si voilà, c'est un mal pour un bien, nous, on a un surcroît d'activité. On a multiplié par entre 4 et 5 la production entre le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Voilà.
Ça se traduit par quoi en termes de production ?
On est sur du 10 tonnes semaine. On est sur les moulins qui travaillent 24 heures sur 24, avec donc 2 personnes la nuit et puis 4 le jour.
Et vous répondez aux besoins de quelle clientèle ?
On a d'abord et avant tout des associés qui sont Relais Vert et Cyril Balland. Alors Cyril Balland avec les boulangeries qui sont plus ou moins fermées, là c'est un peu plus compliqué. Mais Jérémy Ginard avec Relais Vert, son entreprise, les demandes ont été très très fortes. Et ensuite localement, on a quelques magasins qui nous ont appelés, GMS, qui nous ont appelés pour leur fournir en Trésor Gascon de la farine T80, T110, T150, de la farine de seigle aussi. Voilà.
Est-ce que des particuliers peuvent venir acheter leur farine ici ?
Oui, on a une petite boutique où on a un site de vente en ligne qui est www.trésornoir.fr. Donc les gens peuvent commander en ligne, on peut les faire livrer, on a un transporteur qui travaille avec nous sur du colisage, et puis les gens peuvent venir nous envoyer un mail à direction@tgdoc.fr pour prendre une commande, venir sur place. On a des horaires d'ouverture qui, hors Covid, on va dire que c'est 8h30, 16h30, ouais. Et en Covid, ben, faut m'appeler sur mon portable, ou par mail, voilà.
Il faut qu'on trouve toutes les coordonnées sur Internet, c'est
oui,
ça ?
Oui, sur Internet, tous mes numéros sont en ligne.
Alors moi, j'aimerais bien connaître l'historique, l'histoire de cette belle aventure, parce qu'au départ, vous produisiez des pruneaux d'Agen, c'est ça ?
Alors d'abord, oui, on est gros producteur, enfin, on est producteur de pruneaux d'Agen, on essaye de travailler le produit jusqu'au bout, donc on fait du sachet, on fait de la crème de pruneaux, etc. On vend aussi à la propriété, puis ensuite, on a des céréales. Tout ça, on est passé en bio en totalité depuis 2015. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on voulait faire, l'idée, c'était de transformer notre production céréalière, donc blé, tournesol, lentilles, etc., en farine ou mettre en sachet pour les vendre directement aux clients finaux et éviter, grâce à ça, tous les intermédiaires. Donc reprendre un peu la marge que se font tous les intermédiaires, que sont les courtiers, les coopératives et autres transformateurs, devenir à notre tour transformateur, meunier et faire de la mise en sachet, parce qu'on fait aussi la mise en sac, bien évidemment.
Je crois savoir que la minoterie, c'est un peu dans l'ADN de votre famille, ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'avais des arrière-grands-parents qui étaient meuniers dans le nord de la France depuis 1850. C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait créé ça, Émile Coupé. Et le moulin a été détruit trois fois pendant les trois grandes guerres, 70, 14, 18 et 39, 45. Et à la troisième fois, mon grand-père a décidé de ne pas le reconstruire parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait un blocage, ni plus ni moins. Donc j'avais dit à mon père que ce serait bien de créer ça ici dans Gers, parce qu'on est au milieu d'un département magnifique. Et puis voilà, on fait du beau blé avec des valeurs meunières intéressantes. Et puis lui avait toujours ce blocage-là. Bon, moi, je ne l'ai pas connu. Donc, ce moulin, à l'époque, je ne l'ai pas connu. Je connaissais les ruines, entre guillemets. Et donc, j'ai décidé, quand il est parti, en 2013, j'ai décidé de mettre à jour ce projet-là. Et ça a mis quelques années. Voilà.
Et aujourd'hui, vous avez donc accompli ce rêve ?
Voilà. Bah, aujourd'hui, on a créé un bâtiment de 2500 m². On a 5 moulins qui tournent. On a 2000 tonnes de stockage avec du triage, avec une tour de triage. On est capable de produire de l'alimentaire. Mmh. Tout ce qu'on fait est bio, 100% bio. On n'accepte pas ni l'océan, ni la conversion de première année, ni la conversion de deuxième année, parce qu'on ne veut pas de contamination croisée. Mmh. On a un petit labo d'analyse. On a mis en place. Puis là, on va recevoir très prochainement la mise en sachet pour faire du sac de 500 grammes et 1 kg.
Alors, est-ce qu'on peut aller visiter ces installations ?
Oui, évidemment.
Super ! On y va ?
Je suis d'accord avec Thibaut, on a envie de les voir, ces installations. Alors, promis, on y retourne un peu plus tard à la Romieux pour la visite. Parmi les lieux qui vont rouvrir en masse demain, les librairies, même si certaines sont restées ouvertes pendant la période de confinement et ont fait preuve d'idées nouvelles pour maintenir le lien avec leurs fidèles, hein, et c'est le cas de la librairie Buissonnière dans la région toulousaine.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Vladimir Moscovici. Bonjour Vladimir.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Bonjour. Alors vous êtes, alors je le dis tout de suite à nos auditeurs, hein, aucun lien avec l'ancien ministre hein, Moscovici.
Non, peut-être, mais de manière très...
Peut-être, mais vous ne le savez pas.
Voilà, exactement.
Alors vous êtes à la tête de la librairie Buissonnière. Alors, oui. C'est une période assez difficile pour les libraires, hein, et encore plus pour vous. Car vous venez de déménager hein, assez récemment, vous aviez une librairie à Blagnac, si je ne me trompe
Exactement,
pas.
Exactement, oui, qu'on avait monté en 2013 avec mon épouse et qu'on a vendu l'an dernier pour recréer un projet, une librairie dans le Gers et à Saint-Matan plus particulièrement, puisque mon épouse est originaire de ce village, cette petite ville, et donc on avait toujours pour projet de monter quelque chose ici.
Voilà, à Saint-Matan, donc dans ce village, et cette librairie a vu le jour début mars, et voilà que le Covid arrive.
Voilà, vous avez tout bien résumé, c'est-à-dire qu'on a, après près d'un an de travaux, on était très enthousiastes à l'idée d'ouvrir, bien sûr. La librairie a ouvert ses portes le lundi 9 mars, et le samedi qui a suivi, on apprenait que... Il fallait fermer administrativement et qu'il fallait se confiner. Donc, vous imaginez notre grande frustration.
Alors, comment avez-vous fait pour sauver votre librairie ?
Tout d'abord, j'ai essayé d'avoir, bien sûr, d'obtenir des aides, des subventions, des indemnisations. Malheureusement, l'entreprise était trop jeune, hein, l'activité trop récente pour être éligible à quoi que ce soit. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de continuer coûte que coûte, puisque la librairie est notre unique, principale en tout cas, source de revenus, qu'on est quatre avec nos enfants inclus à vivre dessus. Donc, il fallait absolument relancer l'activité. Et c'est pourquoi on a mis en place un système de livraison sur la base du stock que l'on avait à ce moment-là, pardon, puisque les commandes auprès des fournisseurs étaient suspendues. Donc on a essayé de faire connaître ce stock, c'est-à-dire de le mettre en ligne, notamment sur le site de la mairie, qui nous a bien aidé pendant cette période, et de l'envoyer par mail ou par les réseaux à tous ceux qui le souhaitaient, pour qu'ils puissent faire leur choix et que je puisse donc les livrer dans un deuxième temps.
C'est vrai, on le disait tout à l'heure, les libraires, c'est compliqué. Vous venez de le rappeler, effectivement, les circuits de diffuseurs sont gelés. Donc, vous êtes obligé de vous organiser avec le stock existant.
Exactement.
Donc, c'est compliqué pour se renouveler. Et à partir du 11 mai, donc là, à partir de demain, certains libraires vont rouvrir leur librairie. Quelles sont les mesures de sécurité que vous allez pouvoir mettre en place ? Est-ce qu'on n'aura pas le droit de toucher les livres comme on n'a pas le droit de toucher les légumes en ce moment dans les marchés ?
C'est ça. En plus des consignes un peu générales hein, de distanciation sociale, de port du masque, etc., qui sont communes à tous les commerces, on a des recommandations un peu plus précises, notamment par le SLF, le syndicat de la librairie française, sur la manière de concilier les gens. Alors c'est un crève-cœur, c'est contre nature, mais effectivement, on va faire en sorte que les gens ne touchent pas ou très peu les ouvrages. À nous de les conseiller, de décrire le plus précisément possible le contenu pour qu'ils ne touchent en fait que les ouvrages qu'ils vont emporter avec eux. Donc ça va être très compliqué à mettre en place. À nous d'être efficaces, précis, de capter dès le début les sensibilités, les goûts de chacun, et de limiter vraiment nos conseils à un ou deux livres maximum.
Oui, parce que c'est vrai que quand on a envie avant d'acheter un livre, on a souvent envie de le toucher, de regarder un petit peu, voilà, de pourquoi pas même le sentir, enfin voilà. Mais là, c'est vrai que l'objet, il faudra vraiment le regarder de loin, mais oui. Un peu comme on le disait tout à l'heure avec les guides dans les parcours de visite qui vont reprendre un peu une place centrale. Là, le libraire sera très important pour pouvoir justement échanger avec.
Oui, je pense, oui. Je pense, après, nous, on a toujours été dans cette dynamique-là. On a toujours eu des entreprises à oui. petite échelle, familiales. Donc, la différence se faisait justement sur l'accueil, le conseil. On a toujours été très, très attentif à tout ça. Il va falloir, là, l'expérience va jouer aussi, c'est-à-dire que on a eu donc deux librairies. Maintenant, je pense qu'on peut conseiller de manière plus efficace, plus efficiente. Et effectivement, on va être centraux, et tant mieux d'un côté. Mais s'il va y avoir des difficultés, notamment pour les livres un peu illustrés, les BD, les albums jeunesse, ça va être très compliqué de ne pas l'ouvrir, de ne pas montrer. Un amateur de BD, il va être attentif au graphisme. Donc, ça va être vraiment...
Peut-être mettre en place un système de gants et de masques. Peut-être voilà, avec des gants, effectivement, il y aura moins de...
Ouais. On a mis des masques donc à disposition à l'entrée, et des gants essentiellement, ainsi que du gel hydroalcoolique pour que les gens se lavent les mains avant et après, pour leur faire quand même toucher, même de loin, même très, très rapidement les ouvrages. C'est essentiel.
Oui, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vie, donc c'est vrai que c'est pas un endroit où on arrive masqué, donc vivement qu'on puisse faire tomber ces masques.
Complètement. Après, il ne tient qu'à nous justement d'être sérieux ces prochaines semaines et de faire appliquer ces mesures, même si ça va pas être évident, mais pour, j'espère, dès le mois de septembre, peut-être repartir sur des bonnes bases.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Vladimir Moskovitz.
Merci, Nathalie.
Et longue vie à votre nouvelle librairie.
C'est très gentil.
Bien le bonjour à toute la famille. Et
merci
tous avec
beaucoup.
Nos artisans, donc tous avec nos libraires également.
Merci, bon dimanche.
Bon dimanche également. On se retrouve dans une poignée de secondes, cette fois-ci en direct du Vaucluse. Non pas depuis un marché, mais une exploitation. Nous serons chez un éleveur de poules pondeuses. Des poules pondeuses qui ne se sont jamais aussi bien vendues que pendant le confinement. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. 14 milliards, c'est le nombre d'œufs produits en France chaque année, environ 40 millions par jour. Nous sommes leaders européens en la matière. Pendant ce confinement, il y a eu un véritable boom de l'œuf. Alors on a parlé du papier toilette, des pâtes, mais non seulement la consommation d'œufs dans les ménages s'est envolée, mais également la consommation de poules pondeuses, et c'est le cas dans l'exploitation avicole de Dominique Menanciano.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bonjour Dominique. Alors, les éleveurs sont unanimes, la demande a explosé, elle aurait augmenté de 50% par rapport à 2019 à la même époque. Les œufs sont devenus une denrée rare dans les grandes surfaces et certains ont trouvé la parade en achetant directement des poules pondeuses. Vous n'avez jamais autant vendu de poules pondeuses, Dominique Menanciano?
Voilà, oui, tout à fait. En plus, c'est la période du printemps, donc en temps normal, c'est une période où on vend pas mal de pondeuses. Et là, ça, il y a une émulation sur la pondeuse. On a eu de plus en plus de petits clients qui ont eu le temps, à cause du confinement, à faire des petites cabanes pour élever 2-3 pondeuses.
Et avoir des œufs frais tous les matins.
Voilà. Et puis, il faut dire que depuis quelques temps, on parle de recyclage des déchets et la poule pondeuse est déjà à la mode depuis quelques années.
Là, c'est vrai, tous les avantages de la poule pondeuse. Il y a les œufs frais. Donc plus de risque de pénurie d'œufs, mais il y a également effectivement les restes de nourriture, d'épluchures que les poules peuvent manger.
Voilà, tout à fait. Et puis c'est un moyen aussi d'avoir occupé les enfants, de les responsabiliser à élever 4 volailles et avoir le bénéfice de la production de leurs propres œufs. Donc tout le monde est ravi, moi le premier, tout le monde est ravi.
Donc vous êtes, vous dirigez la station avicole du lac à Monteux, dans le Vaucluse. En général, les gens achètent combien de poules pondeuses? Est-ce qu'il faut en avoir une seule, mais faut, ou deux, trois, pour pas que justement... C'est quoi le rythme? C'est quoi la bonne manière de pouvoir composer son poulailler?
Bon, pas une seule, parce que c'est un nuvet, donc c'est un minimum de deux. Et après, c'est en fonction de la famille. S'ils ont deux enfants, trois enfants, ils en prennent trois, quatre. Ils sont en fonction, après ils ajustent, s'ils n'ont pas assez, ils peuvent en rajouter une paire. C'est dans le temps qu'ils voient ce qu'il leur faut comme besoin, quoi.
Alors ce retour à la nature, on l'a vu, hein, cette recherche d'authenticité, ça fait partie, on va dire, des vertus du confinement. Maintenant, espérons que cet engouement va se poursuivre après le confinement.
Mais là, les gens sont obligés, parce que c'est quand même des animaux vivants, il faut leur s'en occuper même après le confinement. Hein.
Bon, ah bah oui.
Temps, c'est pas très compliqué. Hein. À manger, à boire, ça prend pas 3 heures par jour, hein. Ça prend 10 minutes par jour, ça suffit largement. Hein.
Ah oui, donc ça, c'est important de le dire. Hein. Pour ceux qui ont des poules pondeuses, après le confinement, quand vous allez reprendre le travail, il faudra quand même s'en occuper de ces poules. Mais ça prend très peu de temps, hein, comme vous dites, hein, Dominique Menantiano. C'est très simple.
Ah ben, voilà, et vous en avez déjà pour 2 ans minimum de pontes, donc ils se marient un peu avec leur roulaille, quoi. C'est pas un jouet, quoi.
Ouais, non, ça, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, les œufs frais, on en a... C'est à quel rythme une poule pondeuse produit des œufs frais?
Et alors, une pondeuse, on peut dire, on part sur une semaine, elle peut faire 5 œufs par semaine, voire un tous les jours. C'est quand même pas mal en production.
Ah oui, c'est impressionnant. D'où je comprends bien, donc du coup, c'est cet emballement pour les poules pondeuses. Dernière question, Dominique Menantiano. Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un public différent qui est venu acheter ces poules pondeuses? Vous avez l'impression d'avoir capté une autre clientèle?
Je pense, moi, j'ai capté une clientèle qui n'avait pas le temps de passer le pas. Et à cause du confinement, justement, ils avaient le temps de faire leur poulailler et à la grande joie de leurs enfants, parce qu'ils étaient merveillés de venir acheter leur poule.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Dominique Menantiano, pour votre témoignage. Et bonne fin de journée dans le Vaucluse.
Merci à vous et bon dimanche.
Bon dimanche également. Au revoir. Alors, comme promis, il est temps de retourner à proximité du village de la Romieux, dans le Gers. Thibaut, notre French Trotter, est toujours en compagnie d'Oscar Coupé, notre meunier de choc. Et c'est parti pour une visite de ce site de production.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Là, je découvre les équipements de Trésor Gascon d'Occitanie. Alors Oscar, comment ça se passe en fait pour produire de la farine? Quel est le circuit du blé jusqu'à la farine bio?
En fait, on a les agriculteurs qui livrent ici avec leur tracteur leur benne directement. On verse ça dans un tapis qui monte ensuite dans les élévateurs. Ça va directement sur les cellules. Et ensuite, tout au long de l'année, on va reprendre ces grosses cellules de produits bruts de moisson qu'on va retrier dans les étages où là, on a tout en haut un trieur rotatif. Ensuite, on passe par une table densimétrique. Ça remonte plus haut sur un trieur alvéolaire pour finir généralement sur le trieur optique pour avoir une qualité alimentaire. De là, on isole les lots en qualité alimentaire dans les petites cellules qui sont juste derrière moi, ces petites cellules-là, où là, on va avoir une cellule de lentilles, une cellule de pois chiches, une cellule de blé, une cellule de lin, etc. Et au fur et à mesure des fabrications que l'on va avoir, si on veut faire du sachet de légumes secs ou si on veut faire de la farine de blé, ben on va déstocker de ces cellules-là dans des petits containers comme vous avez là, celui-là ou les autres, les verts, sur le blé c'est les verts. Et ensuite, on va amener ces containers verts à la meunerie et on va fournir le blé aux meules de pierre, au moulin, pour avoir ensuite des containers de farine qu'on mettra en sac.
Allons voir ce fameux trieur optique.
Là, le trieur optique, bon, il n'est pas en fonctionnement. Mais si on l'imagine, donc au-dessus, vous avez ce qu'on appelle un patch de grains. Ça peut être du blé, ça peut être de la lentille, n'importe quoi. Ça passe devant des caméras. Donc vous avez des caméras infrarouges et des caméras en colorimétrie. Donc on insiste aussi bien, on va travailler aussi bien sur la densité de la graine que sur la couleur de la graine. Densité, pourquoi? Parce qu'on est capable de sortir des petits cailloux, par exemple. Un petit caillou qui est la taille de la graine, eh bien, on va le sortir plus vite qu'une graine.
D'accord.
Une graine qui va être d'une différente couleur, par exemple vous prenez une lentille qui est cassée en deux, qui va être jaune, la lentille verte, elle est verte, automatiquement on va virer la graine qui va être jaune.
Autrefois, quand on n'avait pas cet équipement-là, ces équipements, comment on faisait ?
C'était fait à la main ou alors il y avait une tolérance. Mais comme les clients sont de plus en plus difficiles et que les acheteurs sont de plus en plus difficiles aussi, l'alimentaire ne souffre aucune médiocrité, on est obligé de rentrer dans un cadre avec des protocoles, un cahier des charges, etc. On va aller à la meunerie.
Alors je vois ces cuves énormes qui servent à stocker le blé.
Si j'ouvre là, ça c'est du blé qui est dedans et ça va servir pour la meunerie. Là il est trié dans les petites cuves, il est trié et ensuite on va le brosser. Pourquoi le brosser ? Pour enlever tout ce qui est poussière et mycotoxines. Ça c'est un blé qui a été trié, donc on voit bien les différences de couleur entre un blé de force et un blé tendre. Hein, le blé tendre il est plutôt jaune et le blé de force il est plutôt translucide.
Donc ça, le blé est brossé, ensuite il est prêt à être moulu.
On va l'amener directement à la meunerie là-haut.
À la meunerie, d'accord.
Attention, là il va y avoir beaucoup de bruit.
Attention, on va attendre du bruit.
Ce qui fait du bruit, c'est la bluterie, c'est le triage, c'est le calibrage.
Alors, comment, quel est le principe de fonctionnement de cette meule ?
En fait, on a le blé qui descend par une écluse, qui va directement sur la meule tournante, qui passe par le centre, et par frottement et par la vitesse, le blé est extrait par les extérieurs. Et la meule dormante ne bougeant pas, elle est graduée, elle est striée, ce qu'on appelle du striage. Et on voit là parfaitement la farine qui sort, où là on a l'ensemble de la farine, du son et de la remoulure qui sort. Là c'est tout ce qui est prêt à partir. Donc là on a tout ce qui est farine à droite ici, qui est prêt à partir pour relais verts, les Intermarchés ou ce genre de choses. Et là c'est tout ce qui est graines. Pareil, qui est mise en sachet de la même façon, qui est prêt à partir.
Il faut préciser donc qu'il y a un volet graines comme les lentilles qui ne seront pas moulues, mais oui, qui vont être empaquetées.
Ils sont empaquetés. Alors, dans un avenir assez proche, dans à peu près 2 mois, on aura ce qu'on appelle un microniseur qui nous permettra de faire les farines de légumes secs.
Racontez-moi, qu'est-ce qu'un microniseur ?
Un microniseur, c'est un système de broyage en fait, où on met la graine et à une très grande vitesse, elle est propulsée sur une sorte de crémaillère. Et sans échauffement, le gros avantage, c'est qu'on n'échauffe pas la graine. On va aspirer en fonction du diagramme un diamètre de farine, très fin ou plus grossier, et on obtiendra la farine de lentilles, la farine de maïs, la farine de pois chiche complète.
Tradition et innovation, la micronisation, belle perspective de développement pour Trésor Gascon. Bravo à vous, Oscar Coupé, pour cette belle aventure. Merci Thibaut pour cette jolie découverte. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous propose de se quitter en musique pour fêter la fin du confinement avec Nos cœurs à la fenêtre de Lara Fabian. Bon dimanche, c'est Sud Radio.
J'entends chanter par les fenêtres. Au monde abîmé, nous offrons ce cadeau. Si dans les rues le temps s'arrête, vois en lacets, porte l'espoir plus haut. Chante à l'infini, chante, chante à l'infini, chante. Nos cœurs éclatent à nos fenêtres, à se partager ce besoin d'essentiel. Et j'entends si fort.